Rupture avec Ziad Naoufal sur 96.2 FM.
Il est 20h passé de 4 minutes dans les studios de Radio Liban 96.2 FM. Bonsoir à tous et à toutes. Rupture, une émission présentée tous les lundis, vendredis et samedis entre 20h et 21h. Nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio Liban ce soir le DJ, musicien, producteur et patron de label César Ahouaji, alias Caesar K. Vous connaissez sans doute son nom de scène. Il est là avec nous dans le studio pour nous parler de son parcours de musicien et de DJ, de son label VL Records. Bref, de beaucoup de jolies choses. C'est un plaisir de t'accueillir, César, dans ce studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça fait longtemps que j'entends parler de toi, ça fait longtemps que j'entends tes morceaux, ça fait longtemps qu'on se connaît, toi et moi, travers les réseaux sociaux, à travers des amis en commun, Nabil Saliba, etc. Ça fait longtemps que je passe tes morceaux dans mes DJ sets. Donc, il était temps de te trouver dans ce studio, de te placer derrière cette vitre et d'écouter tes tracks et de parler de toi. Alors on a commencé avec DJ 16, on va rentrer directement dans le sujet. Dis-nous ce morceau, d'où est-ce qu'il provient, quand est-ce que tu l'as produit, le pourquoi et le comment.
Ce morceau, c'est un des premiers morceaux que j'ai produit en 99. Donc c'était un des premiers tracks digne du nom, quoi. Et que je n'ai sorti que plusieurs années plus tard, environ, je pense, en 2008.
1999, César, on ne dirait pas que... Ça fait quand même 14 ans.
Oui.
Et pourtant, tu m'as l'air très, 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 très jeune.
C'est passé très vite, mais j'ai 34 ans quand même.
Tu as quand même 34 ans, ça fait un bout de temps que tu bourlingues, que tu officies dans la scène électronique IDM Dance Floor de Beyrouth. Donc, 99, tu produis ce morceau DJ 16. Et pourquoi tu as attendu 9 ans pour le sortir ?
Au fait, parce qu'avant, je n'avais pas l'opportunité de le sortir. Et comme j'ai toujours voulu faire tout de façon indépendante, j'ai d'abord commencé par ouvrir avec des amis une radio indépendante qui a été une radio Internet. C'était la première radio Internet au Liban, au Vaib Lebanon, en 1998.
Tu veux qu'on revienne en arrière un peu ? Donc, 1998, tu es DJ ?
Oui.
D'accord. Et tu ouvres une boîte de une radio avec des potes ?
Exactement.
D'accord. Commençons à partir de là.
Ça a toujours été un rêve, quoi, en quelque sorte, de faire de la radio et d'avoir une radio pour pouvoir jouer toute la musique qu'on ne pouvait pas jouer sur la bande FM. Quoi.
Par exemple, musiques que l'on n'écoutait pas sur les bandes
oui,
FM.
Oui, exactement. Même aujourd'hui, à part Radio Liban, il n'y a pas beaucoup d'espace pour ce genre de musique. Et donc, quand j'ai voulu commencer à sortir de la musique et j'ai commencé à produire sérieusement, je me suis dit qu'aussi j'allais suivre le même parcours pour sortir ma musique et ouvrir un label.
Quand vous avez fondé Vaib Lebanon avec tes potes, vous passiez vos propres musiques, vos propres prods ou des morceaux d'autres musiciens ?
Pas nécessairement, non. On avait beaucoup d'émissions, comme toute radio, on avait plein d'émissions. On avait des émissions de hip-hop, de musique électronique, de rock, tous les styles. Le concept, c'était de jouer toute la musique qu'on ne pouvait plus entendre sur la radio FM.
D'accord.
À partir de 95 à peu près. Et donc voilà, c'était une plateforme pour promouvoir et jouer de la musique... pour tous les artistes libanais, mais aussi pour jouer un peu de tout ce qu'on avait envie de jouer. Quoi.
En parallèle, est-ce que tu étais DJ dans des boîtes de nuit locales ?
Oui, exactement. Au fait, j'ai commencé à jouer sérieusement dans des boîtes de nuit à partir de, disons, 2002-2003.
D'accord.
Parce qu'en fait, j'étais assez inconnu à l'époque. Puis en 2003, j'ai participé, un ami m'a dit, ouais, tu sais, à une compétition de DJ que Heineken organise, ça a l'air sympa et tout ça.
Ah, je me rappelle de ça, tu avais gagné à l'époque.
Oui, au fait, la première année, je n'ai pas gagné. Et j'ai décidé de participer l'année d'après.
D'accord.
Et j'ai gagné l'année d'après, au fait. Mais c'était une expérience sympathique, ça m'a permis de faire la connaissance de beaucoup de monde.
C'est une plateforme.
Oui. Et dans le jury, il y avait par exemple Mohamed Rishen que tu dois connaître.
Oui.
Et c'est devenu un ami après ça.
C'est l'un de mes mentors.
Oui, et c'est le mentor de beaucoup de gens, c'est ce que j'ai remarqué. Et il m'a beaucoup aidé, pour être très franc, et c'est lui qui m'a permis de jouer au Lila Brown à l'époque. Il m'a fait faire la connaissance de beaucoup de gens, parce qu'il connaît beaucoup de gens dans la scène, quoi. Et donc, c'est à partir de cette année-là que j'ai commencé à jouer de plus en plus dans des boîtes et dans des événements, etc.
On est en 2002-2003. En parallèle, Vaib Lebanon marchait toujours ?
Oui, ça continuait.
D'accord. Donc, tu étais DJ d'un côté et animateur radio de l'autre.
Oui, enfin, exactement. Animateur. C'est-à-dire que j'allais à l'université, disons de 9 à 5. Puis direct, j'allais au studio qui était à Fenerbahçe à l'époque. Et je passais toute la soirée à enregistrer des émissions et jusqu'à minuit, une heure, c'était une ambiance assez sympathique parce qu'on avait une très grande équipe et beaucoup de gens qui croyaient en ça et qui avaient envie de faire des émissions et tout. Mais malheureusement, comme c'était une radio Internet, on a attendu à peu près 14 ans pour qu'Internet décolle au Liban et on n'y est toujours pas. Donc,
ça s'est un peu cassé la gueule chemin.
C'est-à-dire qu'on n'a pas pu beaucoup évoluer. On a trouvé des moyens de contourner le problème des connexions, c'est-à-dire en faisant, on était premier à faire des émissions en différé et tout ça, à faire aussi des podcasts et permettre aux gens de télécharger les émissions, etc. On a tout essayé, mais bon, ça n'a pas pu beaucoup avancer. Et quand on a eu l'opportunité de commencer avec un label qui est relié à la radio, on s'est dit, oui, pourquoi pas, ça rejoint notre mission, quoi. Ça rejoint notre concept. Et ça a un peu plus viré vers le label que la radio.
En fait, VL, c'est Vaib ?
Oui, d'accord. C'était Vaib Lebanon à l'origine.
D'accord, c'est le nom de ton label ?
Oui, on a voulu commencer par le nom, à l'origine, c'était Vaib. Puis on s'est dit, il y a plein de radios qui s'appellent Vaib au monde, on s'est dit, bon, Vaib Lebanon. Et bon, comme le website c'était vibelebanon.com, tout le monde s'est mis à l'appeler Vibe Lebanon et pas Vibe. Et donc, et après, quand on a ouvert le label, on a appelé ça Vibe Lebanon Records. Et il y a quelques années, quand de nouvelles personnes ont rejoint le label, comme Fadi Aswad et plus tard Ribal Reyes, on a pensé à relooker un peu l'image et tout ça. Et donc, on s'est dit pourquoi ne pas rendre ça un peu plus universel, accessible. Non, on va faire ça, on va abrévier et faire ça VL Records.
Les initiales donc.
Ouais.
Label très productif. On s'est dit toi et moi en début d'émission qu'on va peut-être faire un deuxième tome, un deuxième volume de rupture avec Caesar K
Ouais.
qui soit entièrement dévoué à ton label. On va faire ça d'ici quelques semaines.
C'est
Ce soir,
parfait.
c'est juste toi. Et on va écouter un deuxième morceau tout de suite. Tu nous en parles un peu, Tomato Red?
Ouais, ça, c'est à l'époque où j'ai commencé à bosser avec un pote qui était très jeune à l'époque, Jimmy Haddad, Jimmy. Et on s'est rencontrés grâce à Vibe Lebanon, en fait. Il était ami avec un des présentateurs des émissions. Et bon, il était très bon dans ce qu'il faisait. Et on s'est dit, pourquoi pas, je l'ai introduit à ma musique, le breakbeat. Je lui ai dit, écoute, moi, je fais ce genre de musique. Il m'a dit, ouais, j'aime beaucoup, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Bref, on a commencé à travailler très sérieusement et on a sorti beaucoup de morceaux. Et ça a été, si tu veux, c'était cette collaboration qui a fait qu'on a eu du contenu pour commencer un label parce qu'on était assez productif, etc. On a fait comme un duo. Moi, je m'occupais un peu plus que lui de tout ce qui est
Prod, mise en studio.
DJing et tout ça, et côté technique. Et lui, il se concentrait plus sur
La
sur
compo.
la composition, comme il a un meilleur background que moi en tant que musicien. Et donc voilà, ça c'est un des morceaux. L'histoire de ce morceau, c'est qu'au fait, une fois j'avais un pote qui est mon partenaire dans la radio, dans Vibe Lebanon, Nicolas Badaro, qui habitait à Paris à l'époque. Et il écoutait les news à la télé online. Parce qu'au Liban, on ne pouvait pas faire ça, mais lui pouvait faire ça à Paris. Et donc, il y a un moment, il a enregistré une interview qui est passée à la LBC où il y avait un mec, je ne sais pas quelle région au Liban, qui parlait de la saison des tomates au Liban, comme quoi c'est complètement niqué. Toutes les tomates
Sont foutus.
sont foutues. Elles sont encore à la humma, comment dire en arabe, c'est-à-dire qu'elles sont encore sur l'arbre et qu'elles sont déjà pourries. Et la façon dont il le disait était assez drôle. Je me suis dit qu'un jour, quand j'aurai l'opportunité, je vais faire un track avec cet enregistrement. Et plusieurs années plus tard, j'ai ressorti cet enregistrement. Je me suis dit, je vais dire à Jimmy, viens, on va faire un morceau avec ce truc-là, c'est assez rigolo. C'est marrant parce que les gens maintenant s'en rappellent toujours. Ils me disent, le track de
Des
Tomato,
tomates.
de Tomate, Banadura, etc.
Donc on est en 2007.
2007, exactement.
Voici Caesar Case and GME, le morceau Tomato Red. César Ahouaji alias Caesar K est l'invité de Rupture ce soir. Rupture spéciale musique électronique, on va dire ce soir, bien que Caesar K il touche à beaucoup de genres musicaux. N'est-ce pas, Caesar? Tu as vraiment touché à beaucoup de genres musicaux au fil de ta carrière. Tu as commencé breakbeats, mais maintenant je sais que ce que tu fais est légèrement différent. Parlons d'approche musicale, parlons de ce morceau Tomato Red. Comment tu te positionnais par rapport à la scène électronique libanaise à l'époque, en 2007?
Il faut dire que moi, j'ai toujours été connu pour faire du breakbeat.
Absolument.
C'est un style que...
C'est ta réputation, oui.
Oui, c'est un style que j'ai essayé de lancer, si tu veux. Quand je jouais dans des boîtes, j'ai commencé à ne pas en jouer parce que les gens ne savaient pas comment danser sur du breakbeat. Comme le nom l'indique, c'est un beat qui est cassé, quoi. Donc les gens sont habitués à un 4-4 house beat. Et donc,
à l'époque, quand les gens pensent au breakbeat, ils connaissaient Fatboy Slim et Chemical Brothers à la rigueur. Mais...
Ça, c'est plutôt Big Beat, c'est ce qu'on appelait le Big Beat. C'est ce qui m'a fait rentrer dans le breakbeat. C'est la fin des années 90, Fatboy Slim, Prodigy, Chemical Brothers, FX Twin, etc. Plein de gens de ce style. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est de... Je me suis dit, bon, chaque 2-3 chansons, je vais lancer, par exemple, un remix breakbeat, un truc qu'ils connaissent, mais en breakbeat.
En DJ set, tu veux dire?
Oui. Petit à petit, j'ai commencé à augmenter les tracks de breakbeat, et petit à petit, je me suis dit, bien, ça commence à marcher. Ce que j'aimerais dire aussi, au fait, c'est que peut-être que j'étais pas le premier à jouer ce style en tant que tel, mais peut-être la famille de ce style, parce que je me rappelle, par exemple, ton frère qui jouait dans les soirées hardcore.
Oui.
C'est quelque chose dont je me rappelle très bien. Je ne me rappelle plus c'était quelle année. Je me rappelle qu'il y avait Nabil Saliba aussi qui jouait la batterie parfois avec eux. Et
absolument,
tout ça.
C'était des soirées.
Donc, c'était les seuls qui faisaient des trucs, si tu veux, ce qu'on appelle maintenant de la bass music. Ils jouaient de la drum and bass, ils jouaient un peu de jungle, etc. Donc, mais il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui jouait du breakbeat. Et c'était sympa que les gens se sont habitués à ça. Mais bon, après quelques années... mondialement, si tu veux, le breakbeat a un peu chuté, tout ce qui est new school breaks et tout ça, maintenant ça a été remplacé par le dubstep, le trap, des trucs comme ça. Bon, donc ça fait que la scène sur laquelle je suis est devenue un peu plus petite, mais j'essaye aussi de jongler dans cette scène, tu sais, d'aller un peu avec le courant dans tout ce qui est dubstep, tout ce qui est un peu drum and bass aussi, parce que j'en ai toujours joué dans mes sets en tout cas.
Est-ce que tu veux dire que tu as eu du mal, après un certain temps, à continuer de faire des sets majoritairement breakbeat? Est-ce que tu essaies de me
oui,
dire?
Oui, si tu veux. Parce que quand tu passes à un autre niveau d'énergie, par exemple, quand je jouais du breakbeat, et tu as un style comme le dubstep qui arrive avec de la basse encore beaucoup plus...
Puissante.
Sub, tu vois, encore plus basse. Et donc, le crowd se dit, non, ça, c'est pas assez, tu vois, je suis habitué à un niveau d'énergie beaucoup plus élevé. Et donc, dans mes sets, maintenant, je joue... un peu de tout, tu sais. Pour moi, c'est la même famille. Je commence, je peux jouer des sets plutôt calmes où il y a du hip-hop et du breakbeat un peu funky et du new funk. Et je peux aller un peu plus haut dans du new school breaks et puis du dubstep et de la drum and bass.
Je t'ai entendu jouer de la dubstep récemment dans un set récent à Yukun Kun et dans d'autres endroits. Parlons un peu de ce morceau qui va venir en 2011. Là, on a fait un petit saut de 4 années en avant. Qu'est-ce qui se passe entre 2007 et 2011 pour Caesar K?
Au fait, parce que comme je te disais, je travaillais avec un ami, Jimmy Haddad, Jimmy. Et donc, on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de soirées, on a fait beaucoup de lives ensemble et tout ça. Et puis, quand on a arrêté de travailler ensemble, j'ai dû me reconcentrer un peu sur ma propre production, sur mon style très personnel, tu vois. Et donc, j'ai sorti quelques morceaux, mais j'ai pas...
Tu as envie de jouer
ouais,
ce
peut-être
soir.
Oui, pas vraiment, tu vois. Donc, j'ai zappé un peu un morceau qui s'appelle « Yabba la mort ». L'histoire de ce morceau, en fait, c'est qu'à l'époque... je me suis dit, je vais aller ramasser tout ce qu'il y a comme film libanais ancien. J'ai envie de revoir tous les films libanais des années 80, un truc comme ça, parce que j'ai vu quelques-uns, mais je ne les connais pas tous. Et puis, je suis parti à un endroit, à Bech Hamoud, et je me suis dit, je lui ai dit au mec, je veux tout ce qu'il y a comme film ancien libanais. Et j'ai ramené un tas de films anciens libanais.
Est-ce années 70, années 80, quelles
ouais,
années
70 et 80,
d'accord,
plus ou moins, les années de la guerre, si tu veux.
D'accord.
Et donc, ce que j'ai fait, au fait, au lieu de les regarder, c'est que... je les ai mis dans un lecteur CD, mais au lieu de relier ça à une télé, j'ai relié ça à ma carte son. Et je me suis mis à sampler tout ce qu'il y avait comme dialogue et trucs comme ça, un peu de tout. Et à un moment, il y avait un dialogue entre, un peu cheesy, quoi, entre une femme et un homme sur une plage. Et donc, le mec qui lui court après et qui lui dit « Yabba la mort, tu sais pas que moi je t'aime » et tout ça, en arabe bien sûr, et... et donc j'ai aimé ce morceau et quand je me suis mis à bosser
sur ce morceau.
Ouais, j'ai utilisé ce sample et ça a bien donné, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est assez rigolo et en même temps ça m'a permis de utiliser aussi, j'ai aussi utilisé une partie de la mélodie qui était en background quand ils parlaient les deux.
Dans le film.
Oui, et ce que j'ai fait un slicing de la mélodie et je l'ai transformé, c'est-à-dire que je l'ai transformé en quelque chose de complètement différent, mais ça donnait un truc pas mal.
Tu te rappelles du nom du film?
Pas du tout. Il faut que je revoie mes DVD.
On écoute Caesar K, Yabba la mort.
Thank you.
Caesar, il s'est passé un truc là, la troisième minute du morceau, ça a complètement viré de cap, c'est devenu autre chose.
Exactement.
Parle-nous un peu de ton processus de composition de morceaux et de tes influences.
En fait, si je m'amuse pas, ça marche pas. Donc tout ce qui m'amuse pendant le processus de production, je le fais quoi. Je suis pas des règles très précises. J'ai envie de shifter à quelque chose de complètement différent, je le fais.
Mais tu gardes une certaine structure quand même.
Oui, sûrement, ouais. Mais je suis très influencé par tout ce qui est son, le son que j'écoutais quand j'étais très petit, quoi, le truc des années 80, 90. Donc il y a des gens qui me disent, ouais, ça c'est très old school, ça c'est très 80s, très naturel. Je dis, ouais, mais c'est ce que j'aime, quoi. Si ça n'a pas un fil un peu old school, j'aime pas trop en général.
Musique pop des années 80, 90, musique hip-hop, quelle année 80 et 90 t'intéresse?
En fait, quand j'étais tout petit, les années 80, c'était le New Wave surtout. Tu vois,
les New Romantics,
oui.
Duran Duran, Depeche
Mode, etc. Exactement, et tu sais, avec les synthés qui commençaient à être très présents dans la musique.
Les premiers Roland, oui.
Et les premières boîtes à rythme et tout ça. Et puis pour les années 90, bon, quand j'étais un teenager, c'était de la musique assez bizarre. C'était à l'époque le Eurodance. Tu sais, c'était les radios libanaises du genre Switch FM, Radio DJ et tout ça qui jouaient. On ne savait pas que ça s'appelait du Eurohouse, Eurodance à l'époque. C'était bon, de la dance music. Et c'est tout ce qu'on avait, quoi. C'était tout ce que le DJ jouait sur la radio, en gros. Tu avais au tout début, à part toi, j'imagine, puisque tu me dis que tu as commencé en 92. Mais bon, c'était les DJ, c'est ce qu'ils jouaient. Et comme on était limité, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. Il n'y avait pas un apport externe de musique régulièrement, donc quand j'allais dans un magasin qui vendait de la musique, quoi, un disquaire, c'était les mêmes disques et les DJ qui se disputaient quelques copies d'un disque.
Le même disque.
Et ils jouaient tous la même musique, donc tu sais, ils s'entraînaient à faire des mix et tout ça sur les mêmes morceaux tout le temps, ce qui était bien et pas bien en même temps. Mais c'est ça la musique qui a fait que des gens comme moi ont aimé être DJ à un moment, tu vois. Je pense que c'était une époque où le DJ était quelque chose de très important. On est même arrivé à avoir des compétitions DMC aux années 90, ce qui était très étonnant pour le Liban.
Qu'est-ce que c'est DMC ?
DMC, c'est des compétitions de DJ internationales qui se passent dans chaque pays. Et c'est plutôt axé sur tout ce qui est turntablism, c'est-à-dire scratch, passe-passe et tout ça.
D'accord.
Et donc, il faut beaucoup d'entraînement et beaucoup de talent pour aller dans ce style très particulier. Mais c'était surtout à l'époque, c'était très prestigieux comme compétition. Et tu avais ça dans chaque pays. Et puis, le gagnant de chaque pays allait faire la compétition internationale et tu avais un gagnant au niveau mondial. Et donc, les DJ se concentraient beaucoup sur le côté technique, ce qui n'existe plus maintenant. Et puis, tu avais le vinyle et tout ça. Tout le monde était sur le même format. Et puis, quand il y a eu le CD, ça a été comme
un reshuffling.
Oui, tu vois, c'était jusqu'à maintenant. Moi, je trouve qu'on est perdu, quoi. On ne sait plus sur quoi jouer. Une fois, c'est le CD. Une fois, c'est le vinyle. Une fois, c'est un peu des deux. Une fois, c'est l'MP3 ou Traktor ou Serato, tous ces trucs-là. Chaque jour, tu as une nouvelle technologie. Et bon,
c'est un peu lourd à porter.
Oui, pour moi,
l'apport de nouvelles technologies n'a pas nécessairement aidé.
Non, pas du tout, et surtout pour la qualité de la musique, parce que maintenant, le tracker des DJ ramène des MP3 gratuits d'Internet. Bon, moi, ce n'est pas un gros problème pour moi, mais le problème, c'est la qualité du son. Tu vas dans une boîte et tu remarques que c'est de très mauvaises MP3 qui jouent, et ils ne réalisent pas que ça donne, au final, un son très, très mauvais.
Ce prochain morceau, War, qu'en est-il ?
Bon, ça c'est un track de breakbeat aussi. Si tu veux, en faisant ce track, j'imaginais une scène de guerre, tu vois, avec des blindés et tout ça, et un peu comme celle qu'on voyait dans la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, avec des. Et c'est assez visuel pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé War. Et je pense que ça devait être à une époque, comme c'est pas du tout rare au Liban, ça devait être une époque où il devait y avoir.
De jolies choses qui se passaient.
Oui, exactement. Donc,
on est encore en 2011, n'est-ce pas? Donc,
ouais.
La même année qu'il y a Balamor.
Oui.